Le temps retrouvé, pour un endroit où ils allaient tous crever, c'était vraiment bien vu comme nom. N'importe quoi. Franck était de mauvaise humeur. Sa grand-mère ne lui adressait plus la parole depuis qu'elle vivait ici, et il était obligé de se creuser le ciboulot dès le périph' pour trouver des choses à lui raconter. La première fois, il avait été pris de court et il s'était observé en chien de faïence pendant tout l'après-midi. Finalement, il s'était posté devant la fenêtre et avait commenté à haute voix ce qui se passait sur le parking. Les vieux qu'on chargeait, ceux qu'on déchargeait, les couples qui s'engueulaient, les enfants qui couraient entre les voitures, celui-là qui venait de se manger une taloche, la jeune fille qui pleurait, le roadster Porsche, la Ducati, la série 5 flambant neuve et le va-et-vient incessant des ambulances. Une journée passionnante, vraiment. C'était Madame Carmino qui avait pris en charge le déménagement et il était arrivé comme une fleur le premier lundi, sans se douter une seconde de ce qu'il attendait. L'endroit d'abord. Finance oblige. Il s'était rabattu sur une maison de retraite publique, construite à la va-vite, aux confins de la ville entre un Buffalo Grill et une déchetterie industrielle. Une ZAC, une ZIF, une ZUP, une merde. Une grosse merde posée au milieu de nulle part. Il s'était perdu et avait tourné pendant plus d'une heure, au milieu de tous ces hangars gigantesques, en cherchant un endroit qui n'existait pas, et en s'arrêtant à chaque rond-point pour essayer de décrypter des plans imbitables, et quand enfin il avait béquillé et enlevé son casque, il avait été presque soulevé de terre par une bourrasque devant. Non mais c'est quoi ce délire? Depuis quand on installe les vieux dans les courants d'air? J'ai toujours entendu dire que le vent ça leur rongeait la tête, moi. Oh putain, dites-moi que c'est pas vrai. Qu'elle est pas là. Pitié, dites-moi que je me suis trompé. Il faisait une chaleur à crever là-dedans. Et au fur et à mesure qu'il s'était approché de sa chambre, il avait senti sa gorge se resserrer. Se resserrer, se resserrer tellement qu'il lui avait fallu plusieurs minutes avant de pouvoir prononcer le moindre mot. Tous ces vieux, moches, tristes, déprimants, gênants, gémissant avec leur bruit de savates, de dentiers, de succions, leur gros ventre et leur bras squelettique. Celui-ci avec son tuyau dans le nez, l'autre là qui couinait tout seul dans son coin, et celle-ci complètement recroquevillée sur son fauteuil roulant comme si elle sortait d'une crise de tétanie. On lui voyait même ses bas et sa couche. Et cette chaleur, bordel, pourquoi ils ouvraient jamais les fenêtres? Pour les faire clamser plus vite? Quand il était revenu la fois suivante, il avait gardé son casque jusqu'à la chambre 87 pour ne plus voir tout ça, mais une infirmière l'avait chopé et lui avait ordonné de l'enlever immédiatement parce qu'il effrayait ses pensionnaires. Sa mémé ne lui adressait plus la parole, mais cherchait son regard pour le soutenir, le défier et lui faire honte.
« Alors tu es fier de toi, mon petit? Réponds-moi. Tu es fier de toi ?»
Voilà ce qu'elle lui répétait en silence pendant qu'il soulevait les voilages et cherchait sa moto du regard. Il était trop énervé pour pouvoir s'endormir. Il continuait de tirer le fauteuil près de son lit, cherchait des mots, des phrases, des anecdotes, des conneries, et puis, de guerre lasse, finissait par allumer la télévision. Il ne la regardait pas, il regardait la pendule derrière, et décomptait sa présence. Dans 2 heures, je me casse. Dans 1 heure, je me casse. Dans 20 minutes.
Exceptionnellement, il était venu un dimanche cette semaine-là, parce que Potelin n'avait pas eu besoin de ses services. Comme elle ne l'attendait que le lendemain, elle fut surprise de le voir, et n'eut pas le temps d'enfiler son costume de vieille dame outragée. Pour une fois, elle n'était pas dans son lit, mauvaise et droite comme un piquet, elle était assise devant la fenêtre et cousait quelque chose.
« Mémé ?»
Oh zut, elle aurait voulu prendre son air pincé, mais n'avait pu s'empêcher de lui sourire.
« Tu regardes le paysage ?»
Elle avait presque envie de lui dire la vérité.
« Tu te moques de moi ? Quel paysage ? Non, je te guette, mon petit. Voilà, je passe mes journées à te guetter. » Même quand je sais que tu ne viendras pas, je suis là. Je suis toujours là. Tu sais, maintenant je reconnais le bruit de ta motocyclette au loin. Et j'attends de te voir enlever ton casque pour me fourrer dans mon lit et te présenter ma soupe à la grimace.
Mais elle prit sur elle et se contenta de ronchonner. Il se laissa tomber à ses pieds et s'adossa contre le radiateur.
Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la gueule?
Il se tint par la barbichette pendant un bon quart d'heure, puis se frotta la tête, ferma les yeux, soupira, se décala un peu pour se retrouver bien en face d'elle, et lâcha d'une voix monocorde.
Écoute-moi, Paulette Lestaffier, écoute-moi bien. Tu vivais seule, dans une maison que tu adorais et que j'adorais aussi. Le matin, tu te levais à l'aube, tu préparais ta ricorée et tu la buvais en regardant la couleur des nuages pour savoir quel temps il allait faire. Ensuite, tu nourrissais ton petit monde, c'est ça? Ton chat, les chats des voisins, tes rouges-gorges, tes mésanges et tous les piafs de la création. Tu prenais ton sécateur et tu faisais leur toilette à tes fleurs, avant la tienne. Tu t'habillais, tu guettais le passage du facteur ou celui du boucher. Le gros Michel, là, cet escroc qui te coupait toujours des beefsteaks de 300 grammes quand tu lui en demandais 100, alors qu'il savait très bien que t'avais plus de dents. Mais tu ne disais rien. T'avais trop peur qu'il oublie de klaxonner le mardi suivant. Le reste, tu le faisais bouillir pour donner du goût à ton potage. Vers 11h, tu prenais ton cabas et tu allais jusqu'au café du père Griveaux pour acheter ton journal et ton pain de 2 livres. Il y avait bien longtemps que tu n'en mangeais plus, mais tu prenais quand même, pour l'habitude et pour les oiseaux. Souvent, tu croisais une vieille copine qui avait lu la rubrique nécrologique avant toi et vous parliez de vos morts en soupirant. Ensuite, tu lui donnais de mes nouvelles, même si t'en avais pas. Pour ces gens-là, j'étais déjà aussi célèbre que Bocuse, pas vrai? Tu vivais seul depuis presque 20 ans, mais tu continuais de me mettre une nappe propre et de te dresser un joli couvert avec un verre à pied et des fleurs dans un vase. Si je me souviens bien, au printemps, c'était des anémones, l'été, des reines marguerites, et en hiver, t'achetais un bouquet sur le marché en te répétant à chaque repas qu'il était bien laid et que tu l'avais payé trop cher. L'après-midi, tu faisais une petite sieste sur le canapé et ton gros matou acceptait de venir sur tes genoux quelques instants. Tu terminais ensuite ce que tu avais entrepris dans le jardin ou au potager le matin même. Oh, le potager. Tu n'y faisais plus grand-chose, mais quand même, il te nourrissait un peu et tu bichais quand Yvonne achetait ses carottes au supermarché. Pour toi, c'était le comble du déshonneur. C'est vrai, je ne t'appelais pas, mais je pensais à toi, tu sais. Et à chaque fois que je revenais te voir, je n'avais pas besoin des rapports de la Sainte Yvonne qui me prenait à part en me tripotant le bras pour comprendre que tout ça fichait le camp. Je n'osais rien te dire, mais je voyais bien que ton jardin n'était plus aussi propre et ton potager plus aussi droit. Je le voyais bien que t'étais plus aussi coquette, que tes cheveux avaient une couleur vraiment bizarre et que ta jupe était à l'envers. Je le remarquais que ta gazinière était sale, que les pulls super moches que tu continuais à me tricoter étaient pleins de trous, que tes deux bas n'allaient pas ensemble et que tu te cognais partout. Oui, ne me regarde pas comme ça, mémé. Je les ai toujours vus, tes énormes bleus que t'essayais de cacher sous tes gilets. J'aurais pu te prendre la tête beaucoup plus tôt avec tout ça. Te forcer à voir des médecins et t'engueuler pour que t'arrêtes de te fatiguer avec cette vieille bêche que t'arrives même plus à soulever. J'aurais pu demander à Yvonne de te surveiller, de te fliquer et de m'envoyer tes résultats d'analyse. Mais non, je me disais qu'il valait mieux te laisser en paix et que le jour où ça n'irait plus, eh bien au moins tu n'aurais pas de regrets. Et moi non plus. Au moins tu aurais bien vécu. Heureuse. Peinarde. Jusqu'au bout. Maintenant, il est venu ce jour. On y est, là, et tu dois te résoudre, ma vieille. Au lieu de me faire la gueule, tu devrais plutôt penser à la chance que tu as eue de vivre plus de 80 ans dans une maison aussi belle et...
Elle pleurait.
Et en plus, tu es injuste avec moi. Est-ce que c'est de ma faute si je suis loin et si je suis tout seul? Est-ce que c'est de ma faute si t'es veuve? Est-ce que c'est de ma faute si t'as pas eu d'autre enfant que ma tarée de mère pour s'occuper de toi aujourd'hui? Est-ce que c'est de ma faute si j'ai pas de frères et sœurs pour partager nos jours de visite? Non, c'est pas de ma faute. Ma seule faute, c'est d'avoir choisi un métier aussi pourri. À part bosser comme un con, je peux rien faire. Et le pire, tu vois, c'est que même si je le voulais, je saurais rien faire d'autre. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais je travaille tous les jours, sauf le lundi. Et le lundi, je viens de voir. Allons, ne fais pas l'étonner. Je te l'avais dit que le dimanche, je prenais des extras pour payer ma moto. Alors tu vois, j'ai pas un seul jour pour faire la grasse matinée, moi. Tous les matins, j'embauche à 8h30 et le soir, je quitte jamais avant minuit. Du coup, je suis obligé de dormir l'après-midi pour tenir le coup. Alors voilà, regarde, c'est ça ma vie. C'est rien. Je fais rien, je vois rien, je connais rien et le pire, c'est que je comprends rien. Dans ce bordel, il y avait un truc de positif, un seul. C'était la piole que je m'étais dégotée chez cette espèce de type bizarre dont je te parle souvent. Le noble, tu sais. Ouais, et bien même ça, ça merde aujourd'hui. Il nous a ramené une fille qu'elle a maintenant, qui vit avec nous et qui me fait caguer à un point que tu peux même pas imaginer. C'est même pas sa copine en plus. Ce mec-là, je sais pas s'il tire à son cou un jour. Enfin pardon, s'il franchira le pas un jour. Non, c'est juste une pauvre fille qu'il a pris sous son aile et maintenant, l'ambiance est devenue carrément lourdingue dans l'appart et je vais devoir me trouver autre chose. Bon, mais c'est pas grave encore. J'ai déménagé tellement de fois que j'en suis plus à une adresse près. Je m'arrangerai toujours. Par contre, pour toi, je peux pas m'arranger, tu comprends. Pour une fois, je suis avec un chef qui est bien. Je te raconte souvent comment il gueule et tout ça, n'empêche, il est correct comme gars. Non seulement il a pas d'embrouille avec lui, mais en plus c'est un bon. J'ai vraiment l'impression de progresser avec lui, tu comprends. Alors je peux pas le planter comme ça, en tout cas pas avant la fin du mois de juillet. Parce que je lui ai dit pour toi, tu sais, je lui ai dit que je voulais revenir travailler au pays pour me rapprocher de toi et je sais qu'il m'aidera. Mais avec le niveau que j'ai aujourd'hui, je veux plus accepter n'importe quoi. Si je reviens par ici, c'est soit pour être second dans un gastro, soit pour être chef dans un tradi. Je veux plus faire le larbin maintenant, j'ai assez donné. Alors tu dois être patiente et arrêter de me regarder comme ça, parce que sinon, je te le dis franchement, je ne viendrai plus te voir. Je te le répète, j'ai qu'une journée de congé par semaine, et si cette journée-là doit me déprimer, eh ben, c'est la fin des haricots pour moi. En plus, ça va être les fêtes et je vais bosser encore plus que d'habitude, alors tu dois aussi m'aider, merde.
Elle le regardait, interloquée.
Voilà, c'est bon. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et maintenant j'arrive plus à me relever parce que j'ai mal aux fesses. Alors, qu'est-ce que t'es en train de coudre là ?
Non mais c'est toi, Franck. C'est bien toi. C'est la première fois de ma vie que je t'entends causer aussi longtemps. T'es pas malade au moins ?
Non, je suis pas malade. Je suis juste fatigué. J'en ai plein le dos, tu comprends.
Elle le dévisagea longuement, puis secoua la tête comme si elle sortait enfin de sa torpeur. Elle souleva son ouvrage.
Oh, c'est rien. C'est un adège, une gentille petite qui travaille là le matin. Je lui raccommode son pull. Ah, d'ailleurs, est-ce que tu peux me passer le fil dans l'aiguille ? Parce que là, je trouve plus mes lunettes.
Tu veux pas te rasseoir dans ton lit, que je prenne le fauteuil ?
À peine s'était-il avachi qu'il s'endormit. Du sommeil du juste. Le bruit du plateau le réveilla. Elle posa sa main sur son genou et lui posa la dernière question à laquelle il se serait attendu.
Dis-moi, cette jeune fille dont tu me parlais tout à l'heure, ouais, celle qui vit avec vous, elle est comment ?
Elle est conne, prétentieuse, maigre et aussi tarée que l'autre.
Oh, fichtre !
On dirait une intello. Non, on dirait pas, c'est une intello. Avec Philibert, ils sont toujours fourrés dans leurs bouquins et comme tous les intellos, ben, ils sont capables de parler pendant des heures de trucs dont tout le monde se fout. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est femme de ménage.
Ah bon ?
La nuit.
La nuit ?
Ouais. Je te dis, elle est bizarre. Et tu verrais comment elle est maigre, ça te ferait mal au cœur.
Elle mange pas ?
J'en sais rien, je m'en fous.
Elle s'appelle comment ?
Camille.
Elle est comment ?
Je te l'ai déjà dit.
Son visage.
Et pourquoi tu me demandes tout ça ?
Pour te garder plus longtemps. Mais non, c'est parce que ça m'intéresse.
Elle a les cheveux très courts, presque rares, dans les marrons. Elle a les yeux bleus, je crois. Enfin, j'en sais rien. Enfin, clair, en tout cas. Et puis, je m'en fous, je te dis.
Son nez, il est comment ?
Normal. Je crois bien qu'elle a des taches de rousseur aussi. Pourquoi tu souris ?
Pour rien. Je t'écoute.
Non, j'y vais. Tu m'énerves, là.